Vous écoutez
RMC. RMC, l'interview.
Philippe Corbet.
Bonjour Eric Woerth.
Bonjour.
Merci d'être ce matin sur BFM TV RMC, président de la commission des finances de l'Assemblée. Vous avez été ministre de Nicolas Sarkozy, ministre du budget puis du travail. Vous avez été élu, je crois, à 5 reprises député de l'Oise sous les étiquettes UMP puis LR. Et vous venez d'annoncer il y a quelques jours que vous allez soutenir Emmanuel Macron dans cette présidentielle. On va parler de tout ça. On va parler aussi d'économie et notamment du grand oral des candidats devant le MEDEF aujourd'hui. Mais deux questions d'actualité assez courtes de week-end. Eric Woerth, vous êtes élu de l'Oise. C'est une terre de chasse. Il y a une jeune femme de 25 ans qui est morte ce week-end, tuée par une balle perdue, tirée par une chasseuse de 17 ans qui est en garde à vue. Est-ce qu'il faut évoquer, discuter de la proposition faite par Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, d'interdire la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires? Est-ce qu'il faut en parler ou est-ce que c'est un sujet tabou?
On peut parler de tout, mais la chasse est une tradition. Enfin, je vais redire ce que beaucoup de gens disent. Je suis pas moi-même chasseur, mais la chasse est une tradition française, comme dans d'autres pays d'ailleurs, mais souvent plus que dans d'autres pays. Donc,
il faut pas toucher
la chasse. Cet accident, il est dramatique, évidemment dramatique, mais il peut pas pousser à des solutions d'interdiction. Il faut
même
sans doute mieux réfléchir. Je connais pas les conditions d'organisation d'une chasse, ni surtout les conditions d'organisation de celle où s'est produit ce dramatique accident. Mais il faut sans doute que le lien et la capacité à chasser, se promener, faire cohabiter des mondes différents puissent se faire. On voit souvent d'ailleurs dans des chemins de forêt des chasses en cours, prévenir les gens.
Et donc l'interdiction le week-end,
les vacances scolaires, c'est trop, ça va trop loin. D'abord, les gens travaillent. Ouais. La plupart des chasseurs, ils travaillent, donc c'est en soi, c'est me semble-t-il difficile. Et puis ça vaut pour toutes les régions. Et il y a des millions de chasseurs.
Deuxième question d'actualité, Eric Woerth, David Lisnard, président de l'Association des maires de France, maire Les Républicains de Cannes, qui soutient donc Valérie Pécresse, annonce qu'il donne son parrainage à Jean-Luc Mélenchon. Alors non pas parce qu'il a rejoint les Insoumis, mais par esprit démocratique, parce qu'il veut éviter une situation où Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen ou Éric Zemmour n'auraient pas leur parrainage. Qu'est-ce qui se passerait si, à la fin de la semaine prochaine, l'un de ces trois candidats, qui sont assez hauts dans les sondages, en capacité d'être potentiellement au second tour, n'avait pas ses parrainages? Est-ce que ce serait un tsunami démocratique?
D'abord, je trouve, de la part de David Lisnard, qui est président des maires de France, qui a succédé à François Baroin, je trouve que c'est assez courageux. C'est une assez symbolique et une initiative que j'ai tendance plutôt à soutenir.
Vous pourriez le faire?
Je pourrais le faire.
Vous avez déjà donné votre parrainage?
Oui, j'ai donné mon parrainage à Emmanuel Macron.
À Emmanuel Macron.
Oui, je suis logique dans les choses. Ce serait compliqué.
Ouais. Non, vous auriez pu faire avant de choisir de rejoindre Emmanuel Macron. Mais vous auriez pu soutenir Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen.
La vraie erreur, c'est d'avoir levé l'anonymat. C'est l'erreur de François Hollande. Enfin, deux erreurs fondamentales pour la démocratie, la rupture de la possibilité de cumuler le mandat de maire et de parlementaire, et celle des parrainages. En tout cas, il est impossible, il est même démocratiquement, je trouve, impossible que monsieur, madame Le Pen, que monsieur Zemmour, que monsieur Mélenchon, ils sont à plus de 10% dans les sondages. Ouais. Donc c'est pas rien, n'est pas leur parrainage.
Donc vous appelez les maires à les parrainer?
Oui, je pense que les maires doivent pouvoir le faire. Maintenant, c'est très compliqué. Quand vous en discutez, j'ai discuté récemment avec des amis maires plutôt de droite ou divers droites, dans ma propre circonscription, aucun n'avait parrainé. Aucun. En disant j'étais élu sans étiquette, aujourd'hui on m'en met une, j'aurais beau expliquer que j'ai parrainé un tel ou un tel juste pour que le débat démocratique ait lieu, les électeurs ne comprendront pas. Donc je me mets à la place du maire, pas si simple d'aller dire qu'il parraine madame Le Pen ou c'est très compliqué quand il n'est pas du tout du Rassemblement National. C'est compliqué à expliquer aux électeurs qui en général aiment bien les trucs cohérents, simples. Et ce serait le fruit de beaucoup de rumeurs. Donc c'est difficile pour le faire.
Eric Woerth, l'événement politique du jour, c'est le grand oral de plusieurs candidats devant le MEDEF. 450 entrepreneurs, Jadot, Pécresse, Hidalgo, Roussel, Le Pen, Zemmour seront présents, mais pas le président Macron puisqu'il n'est pas encore officiellement candidat. S'il avait pu venir, qu'est-ce qu'il aurait dû dire aux patrons, aux entrepreneurs? Par exemple, augmenter les salaires vite, maintenant. Non?
assez compliqué de
c'est
faire
pas ça
le discours
dire
à sa place.
Aux entrepreneurs.
Moi, je pense que sur le pouvoir d'achat, c'est on a tendance à prendre ça de manière un peu trop court-termiste. Faire tout tourner autour du pouvoir d'achat, c'est compliqué d'avoir de bonnes réponses.
D'ailleurs,
on voit bien que les candidats
des Français aujourd'hui.
Mais d'accord, mais c'est toujours la préoccupation quotidienne de combien on gagne et combien on peut.
Sauf que là, les prix augmentent et donc c'est une préoccupation plus importante.
Mais le pouvoir d'achat, il a augmenté aussi. Il a augmenté de 5, 6, 7% sur les 5 ou 6 dernières années. Donc c'est plus que d'habitude. On n'a pas non plus la même proportion dans les statistiques, etc., etc.
Le pouvoir d'achat, en tout cas. La perception d'une partie française est en partie biaisée. Il y a l'effet.
Elle est biaisée par le logement, par l'énergie, par des sujets parfois de cette nature.
Ça ne devrait pas être le sujet de préoccupation numéro 1, selon vous.
Je ne peux pas dire ça, puisque ça l'est. Ça l'est. Donc je le constate. Je dis simplement que la réponse, je pense que non, il n'y a pas nécessairement de décalage entre le pouvoir d'achat ressenti et le pouvoir d'achat exact. Il y a des moyennes aussi qui sont très compliquées. Il y a des gens qui ont gagné beaucoup plus de pouvoir d'achat et pas nécessairement des personnes aisées. Et puis il y a des personnes qui ont très peu gagné de pouvoir d'achat. La réduction du chômage, d'ailleurs, fait augmenter le chômage d'achat moyen, puisque c'est un chômage d'achat,
un pouvoir d'achat
qui est.
Vous dire que comme l'emploi n'est plus la préoccupation numéro un, du coup, davantage de gens travaillent.
Quand il y a moins de chômage, les gens gagnent plus, puisqu'ils gagnent plus au chômage, ils gagnent plus, pardon, en emploi qu'au chômage, et donc ça joue sur les calculs de pouvoir d'achat. En tout cas, la pression de très très court terme sur le pouvoir d'achat, elle est extrêmement compliquée. Et vous ne pouvez pas décréter que les entreprises elles vont augmenter les salaires. J'ai jamais vu un chef d'entreprise qui avait envie que les salaires soient bas, d'autant plus que le marché du travail il est extrêmement tendu, donc ça pousse évidemment à augmenter les salaires. Mais besoin pour créer un pouvoir d'achat durable. C'est ça que veulent les Français, c'est que durablement leur pouvoir d'achat augmente plus vite que les prix. Il faut procéder à beaucoup de réformes. C'est le fruit de beaucoup de réformes. C'est pas uniquement de dire je vais baisser les cotisations sociales. D'ailleurs, en même temps, ça veut dire que si on baisse les cotisations sociales, on a un tout petit problème de financement de la sécurité sociale et du modèle de protection sociale. Et c'est pas uniquement de dire je vais me mettre en face des chefs d'entreprise et je vais leur dire attention, si t'augmentes pas les salaires, t'auras beaucoup d'ennuis.
C'est pourtant ce que font plusieurs candidats, par exemple Éric Zemmour, Marine Le Pen ou Valérie Pécresse, qui promet une augmentation de 10% des salaires jusqu'à 3 000 euros environ, 3% poursuite tout de suite dès cet été, avec une baisse des cotisations FIES. Est-ce que vous l'incluez dans ces propositions court-termistes?
C'est du court-termisme. Baisser les cotisations retraite salariale, qui sont des cotisations contributives, ça en soi, ça veut dire que quelqu'un d'autre va payer à votre place. Et donc c'est au fond l'État.
Mais vous avez pratiqué, comme les gouvernements de gauche d'ailleurs aussi, des baisses de charges ces dernières années.
Les baisses de charges, à un moment donné, vous pouvez pas les baisser jusqu'à plus soi. Il faut baisser les dépenses sociales. Il faut évidemment que tout ça s'équilibre. Soit vous fiscalisez. C'est-à-dire que c'est plus du tout des cotisations qui pèsent sur le travail. Et je pense que, in fine, on aboutira à un moment donné à cela. C'est plus des cotisations qui pèsent sur le travail, mais elles pèsent sur la fiscalité. En tout cas, le pouvoir d'achat, c'est une résultante. C'est le résultat de la bonne qualité de l'économie française. Ça veut dire qu'il faut qu'on monte en compétences, qu'on aille plus loin, que les gens soient plus compétents, plus formés aux métiers, qu'ils soient des métiers qui permettent de dégager plus de valeur ajoutée, donc plus de salaire, que la productivité augmente, qu'on augmente le temps de travail, le volume de travail produit par le pays, par habitant. On est un des plus faibles par habitant, puisque les gens rentrent tard sur le marché du travail, tard sur le marché du travail, ils sortent trop tôt du marché du travail. Il y a au milieu un chômage qui est encore un chômage de masse, même s'il baisse, et j'espère bien qu'on parviendra au plein emploi rapidement, enfin en tout cas dans les 2, 3 ou 4 ans qui viennent. Tout ça, c'est une résultante, c'est la résultante de la bonne santé de l'économie. Et il faut faire très attention à ça. Par ailleurs, on va rentrer dans un monde qui est cher. Le monde, il va être de plus en plus cher. À partir du moment où on décide, on le voit bien d'ailleurs quand on met sur le trottoir son bac à ordures, on voit bien qu'il y a maintenant plusieurs bacs, on trie, et en même temps, c'est plus cher. C'est-à-dire qu'on fait plus d'efforts pour trier, et en même temps, c'est plus cher. Mais tout ça va coûter plus cher. L'énergie va coûter plus cher.
Pour comprendre, vous, Éric Woerth, qui est un des spécialistes les plus reconnus au Parlement des questions budgétaires, des questions économiques, vous souhaitez qu'Emmanuel Macron, que vous allez soutenir, ne propose pas de mesures de baisse des salaires comme le font Valérie Pécresse ou Marine Le Pen ou Éric Zemmour indirectement.
C'est parce qu'Emmanuel Macron proposera in fine, j'ai pu en parler avec lui.
Mais ce serait court-termiste selon vous.
Je pense qu'il faut faire très très attention au court-termisme qui à ce moment-là engage et pas en bien manger le blé en herbe, c'est très très mauvais. Donc on a besoin de faire un chèque pour compenser à un moment donné une inflation. Ouais. On peut le faire à un moment donné, mais c'est pas une réponse durable. On a besoin d'une réponse durable à la question du pouvoir d'achat. C'est la productivité du travail, c'est évidemment la montée en compétences et donc mettre en flux tendu les systèmes de formation initiaux et formation professionnels. Et puis c'est aussi de se poser la question de toute une série de personnes dont le travail ne peut pas être jugé uniquement en fonction de la productivité économique. Je pense aux soignants, ça va de soi, mais je pense aussi aux instituteurs ou aux professeurs des écoles, à des métiers qui ont une utilité sociale parfaitement reconnue, parfaitement mesurable, et dont on doit pouvoir les augmenter en fonction de cette utilité sociale, à partir du moment où, évidemment, les prix ou le reste à charge, à un moment donné, augmentent pour les uns et pour les autres.
Justement, tout ça dans un contexte où, l'autre jour, la Cour des comptes a publié son rapport annuel qui a un peu refroidi le discours optimiste du gouvernement. 2 ans après le début du quoi qu'il en coûte, notre dette publique équivaut à 113% de notre PIB. Donc, pour faire simple, chaque année, nous produisons, notre richesse totale produite en une année est moins importante que le total de notre dette. Et selon la Cour des comptes, c'est pas seulement l'effet du quoi qu'il en coûte. Le déficit structurel, donc hors Covid, est 2 fois plus élevé qu'avant la crise. Ça peut pas durer. Il va falloir faire des réformes. Oui, douloureuse, mais le président de la Cour des comptes parle même d'efforts sans précédent.
Il a évidemment raison. C'est pas une découverte, hein, ni pour lui, ni pour moi, ni beaucoup de pour
hors
beaucoup
COVID,
de monde.
Ça s'est aggravé.
Ça s'est aggravé. Hors Covid, la dépense courante a continué à augmenter et trop fortement. Et je l'ai dit et je l'ai chiffré aussi d'ailleurs. Dans la dépense courante, par exemple, il y a le Ségur de la santé.
Donc les augmentations.
Le Ségur de la santé, l'augmentation pour les soignants. Ouais. Voilà un sujet où, au fond, tout le monde va dire on est favorable à l'augmentation. Ouais. On est favorable à l'augmentation du nombre de policiers parce que il faut une politique sécuritaire, etc., etc. Ça, c'est de la dépense courante. Donc, il faut, pour réussir, en fait, à retrouver une souveraineté financière. Il faut une souveraineté financière. Aujourd'hui, 113-115% de dette, c'est trop. C'est supportable puisque les taux d'intérêt sont très très bas. En fait, on paye moins cher le coût de la dette, il est inférieur au
jour où
la dette
va remonter.
Le jour il augmente de 1 point ou de 2 points, c'est 30, 40, 50, 60 milliards d'euros de plus. C'est un sujet qui doit être traité sur du temps et du temps long. On peut pas en France sans arrêt et tout le temps changer de politique. On peut pas tous les 3-4 ans se dire je fais de la réforme de l'État, j'en fais plus, je suis un président vertueux sur le plan des finances publiques et puis après j'ai d'autres priorités. Enfin bon, on a vécu tout ça sur les 20 dernières années. On a besoin de stabilité et de réforme. On a besoin d'un temps de réforme durable, profond et au fond de s'adapter au monde qui change. Le président français qui sera élu là dans 2 mois, mois, il sera en face probablement de défis que n'ont eu à relever aucun de ses prédécesseurs. Le défi de l'investissement, le défi de la dette, et surtout le défi des changements de vie. Le changement d'énergie, c'est pas uniquement des investissements à faire, c'est des milliers de milliards d'euros. Ouais. Mais c'est pas uniquement cela, c'est aussi un changement de vie de notre part. Et de cette transition écologique, cette transition économique, elle doit être accompagnée d'une transition sociale. Il y a beaucoup de gens qui resteront au bord du chemin dans ces transitions, et on doit pouvoir modifier nos modèles sociaux aussi pour faire en sorte que les personnes puissent être accompagnées durant cette phase de transition.
Vous dénonciez il y a quelques mois dans le Figaro, c'était en septembre dernier, Eric Woerth, une euphorie dépensière. C'est à peu près ce que disait, de façon plus imagée, Valérie Pécresse quand elle disait « cramer la caisse ». Au fond, c'est un peu ça, vous dites la même chose.
En fait, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit cramer la caisse.
Non,
j'ai
vous avez dit euphorie dépensière. Ouais, euphorie dépensière. C'est à peu près la même chose.
Oui, j'ai parlé d'ambiance dépensière. Pourquoi? Parce que derrière la dépense de Covid, il y avait évidemment beaucoup d'autres dépenses qui continuaient à trop augmenter. Quand on compare les quinquennats, dans le quinquennat de Nicolas Sarkozy, on a augmenté la dette de 640 milliards d'euros. Dans le quinquennat,
la crise financière.
La crise financière qui était extraordinairement lourde et on a fait ce qu'on devait faire. Durant le quinquennat d'Emmanuel Macron, curieusement, c'est comme ça, on a augmenté la dette de 640 milliards. Donc de la même chose. Et quand il n'y a pas eu de crise, parce que sous le quinquennat de François Hollande, il y a une petite crise de l'euro qui était importante, mais qui était pas, réagissait moins, c'est de l'ordre de 400 milliards. Donc on voit bien que, quoi qu'il arrive au fond, et quel que soit le président, on a tendance à tirer jusqu'à la corde les rênes des finances publiques et faire appel à l'État. On doit changer tout cela. La dette doit être au cœur. Les finances publiques, le rétablissement des finances publiques, l'assainissement de nos finances publiques doit être au cœur de la campagne présidentielle.
On a entendu que quel que soit le président élu dans deux mois, ça ne sera pas forcément rose et bleu pour les Français.
Non, mais c'est aussi passionnant. Enfin, c'est rose et bleu pour les Français d'abord parce que la vie, c'est quelque chose de merveilleux. La vie, c'est quelque chose de merveilleux. C'est mieux que la mort.
Il va falloir qu'on fasse des efforts.
Donc, on a besoin de changer et de changer de comportement face à tout cela, face à la consommation. On peut pas dire d'un côté, je suis favorable, il faut tout faire pour la planète, et puis de l'autre côté, se plaindre de l'augmentation des prix de l'énergie.
Et Éric Woerth, l'une des grandes réformes qu'il faudra faire, c'est la réforme des retraites. Si Emmanuel Macron est réélu, est-ce que vous souhaitez qu'il le fasse dès cet été, très vite? Et vous plaidez pour un passage de l'âge à la retraite à 65 ans, c'est ça?
Moi, je me suis opposé à la réforme qu'a présentée le président
la réforme de
la République, parce qu'elle était trop compliquée et personne n'y comprenait rien.
C'est une mesure d'âge
de ne pas
rapide.
Comprendre quelque chose qui va être la
mais là,
façon
vous
de vos revenus pour les
années qui viennent. Mais là, vous voulez une mesure d'âge rapide, 65 ans, dès cet été?
Peut-être pas dès cet été, je pense qu'il faut quand même en discuter. Il faut en discuter notamment aussi avec les syndicats. Il faut rétablir les corps intermédiaires là où ils devraient être.
Mais 65 ans?
Ah oui, bien sûr.
Et si c'était moins de 65 ans, ce serait petit joueur?
Non, mais c'est pas un jeu, ça dépend en combien de temps vous augmentez l'âge. Est-ce que vous décalez tous les ans d'un trimestre? Est-ce que vous décalez de 4 mois?
L'objectif, c'est 65 ans, selon vous.
De toute façon, à un moment donné, on y arrivera. Si vous dites 64, ça veut dire que vous ferez 65 la fois d'après. Et si vous arrivez très vite à 64, c'est comme si vous acceptiez que ce serait 65 un peu plus longtemps. En réalité, il faut travailler plus et il faut pas avoir peur de ça. Mais il faut augmenter, la capacité pour les entreprises, l'entreprise doit au fond s'adapter aux travailleurs plus âgés. Vous devez pouvoir continuer à avoir de l'ambition dans votre vie professionnelle quand vous avez encore 55 ou même 60 ans. Ouais. Donc on ne doit pas avoir ce regard sur le travailleur plus âgé qu'on avait il y a quelques années. Il doit y avoir une évolution des tâches qui sont effectuées dans l'entreprise, et l'entreprise doit pas considérer qu'un travailleur plus âgé est moins productif et donc c'est pas intéressant. Donc c'est tout ce regard, on parlait de la dépendance, mais de l'autre côté, le vieillissement au travail est aussi un regard de la société sur le travail, et c'est un point fondamental. Et les retraites, il faut poser cette question-là un peu comme ça aussi, même s'il faut plus de justice à l'intérieur du système de retraite, même s'il faut continuer à augmenter les petites retraites, ça va de soi, elles ont été beaucoup augmentées d'ailleurs ces dernières années. C'est aussi le regard de notre société sur beaucoup de choses qui va changer, je pense, en très peu de temps, et c'est ça qu'on doit accompagner.
Éric Woerth, vous avez été blessé par les propos de Christian Jacob, le président des LR, quand vous avez décidé de quitter le parti où vous avez milité pendant 40 ans pour rejoindre Emmanuel Macron. Il disait, je cite, Éric Woerth est un parlementaire en fin de carrière et ses affaires judiciaires ont sans doute pesé. Vous allusion notamment, vous êtes mis en examen en deux affaires. Vous avez été blessé par ces paroles?
Oui, j'étais un peu étonné. Enfin, c'est un registre de vocabulaire.
Brutal.
C'est assez brutal parce que c'est personnel. Fin de carrière, ça veut dire que tous les gens, je viens d'avoir 66 ans, tous les gens de 66 ans, ils sont prêts à être mis au rebut, là. Tous ceux qui ont plus de 66 ans, qui m'écoutent, ils vont pas être très, très heureux.
C'est vrai que Nicolas Sarkozy n'a vraiment pas aimé cette phrase de Christian Jacob.
Je l'ai lu dans la presse, mais.
Vous en avez parlé directement, Nicolas Sarkozy?
Non, il m'en a pas parlé, bien sûr que non. C'est des affaires, c'est pas des affaires personnelles, c'est des affaires qui tiennent d'une manière ou d'une autre aux républicains. Ouais. Donc chacun
vos fonctions doit notamment prendre aussi lors sa
part. Oui, chacun doit prendre aussi sa part de cela, et tous ceux qui adhèrent aux républicains doivent le faire. Cela dit, je reste au fond de moi-même LR. Au fond de moi-même, même si j'ai dû rendre ma carte, même si je pense que le président
LR
de la
aujourd'hui,
République,
c'est d'une certaine manière.
Moi, j'emporte ma part de LR avec moi, dans mon sac à dos, si vous voulez. C'est ça qui m'importe. J'ai pas changé. Je suis toujours de droite et je vais le rester. Et ce que j'ai envie, c'est qu'on ne soit plus dans une logique de bloc à bloc. Vous voyez, sinon, ça va se terminer comme l'Ukraine, c'est-à-dire de bloc à bloc où plus personne ne se parle, où c'est très très difficile et très tendu. C'est pas la société dans laquelle on vit aujourd'hui.
Nicolas Sarkozy, vous êtes un ami Nicolas Sarkozy.
Oui.
Est-ce qu'il est exclu que Nicolas Sarkozy soutienne Emmanuel Macron dès le premier tour?
Je peux pas parler pour Emmanuel Macron, je ne peux pas parler non plus pour Nicolas Sarkozy.
Selon vous,
aujourd'hui Nicolas Sarkozy ne parle pas. Je pense qu'il parlera. Peut-être peut-il aussi décider de ne pas le faire. Il fait une fidèle. Il a le droit aussi de ne rien dire sur l'élection présidentielle qui vient. Je note aussi que tous les candidats ne sont pas encore candidats. Donc peut-être attend-il
cela. Tant qu'il ne parle pas, ça n'est pas exclu qu'il soutienne Emmanuel Macron.
Mais je n'exclus rien dans aucun sens. C'est à lui de le dire.
Vous comprenez pourquoi Valérie Pécresse est dans certains sondages quatrième?
Moi, je veux pas dire du mal de mon ancienne famille politique, ce serait trop simple. J'en suis parti pour de vraies raisons, pour des raisons idéologiques. Je considère qu'il y a un enfermement aujourd'hui de la pensée de droite, un enfermement de la pensée de droite.
Vous pensez qu'elle-même est enfermée dans une pensée qui ne lui correspond pas
totalement ? Je pense qu'elle est partie des Républicains pour les mêmes raisons qui me font aujourd'hui soutenir Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'une pensée de droite qui n'est pas la mienne, qui n'est pas ma droite, qui est irréconciliable, qui est une pensée fermée. J'aime beaucoup le foot. En général, ceux qui jouent en défensive, ils gagnent pas. C'est ceux qui ont une bonne défense qui gagnent. Mais c'est aussi ceux qui ont surtout une bonne attaque. Moi, je crois que la France, elle est plutôt en position d'attaque sur l'ensemble des valeurs qui sont les siennes.
Ce que vous voulez dire, c'est que Valérie Pécresse mène une campagne d'une certaine manière insincère, en tout cas qui ne correspond pas totalement.
Non, surtout pas insincère. J'imagine qu'elle est sincère. Mais en tout cas, elle est revenue aux Républicains uniquement pour défendre sa propre candidature.
Sinon, elle ne serait jamais revenue. Ça n'est pas totalement sa ligne personnelle.
Elle est obligée de faire la synthèse de l'ensemble des lignes qui sont aujourd'hui dans les Républicains, et la ligne majoritaire aujourd'hui est plutôt une ligne souverainiste.
Donc c'est pour ça qu'elle est quatrième dans les sondages.
C'est pas une bonne ligne pour la France. C'est pas une bonne ligne pour la France.
Merci Eric Woerth d'être venu ce matin sur BFM TV et RMC. Il est 8h53.